partager une réflexion sur les kilesas, les obstacles. La conception bouddhiste de la nature humaine dit que la nature de la conscience est. Et elle est en chacun de nous, et sa qualité est une qualité de transparence, de bonté, de bienfait, de simplicité, d'ouverture, d'appartenance, quelque chose qui est profondément bienfaisant pour le moi. Et chacun est porteur de cette qualité de paix ou d'appartenance, cette générosité royale dont on parlait hier. Mais c'est recouvert par les nuages de l'ignorance. Et c'est la névrose humaine. Nous ne savons pas nous référer au silence et à l'espace, à cette perception d'appartenance au tout. Et alors, nous ne voyons plus. Nous regardons trop aux superficies et nous sommes coupés de cette présence. C'est ce qu'on appelle dukkha. Et comme dukkha fait mal, alors nous cherchons à ne plus avoir mal. Et nous cherchons beaucoup à ne plus avoir mal en assouvissant nos désirs. Ces empêchements ou ces kilesas, ces obstacles, sont des sortes de voiles sur la nature humaine qui nous empêchent de voir. Et nous mettent dans une sorte d'opposition structurelle. C'est dans les cellules, ça fait ça. Ça stresse. Il s'agit, par la pleine conscience, de transformer nos cellules elles-mêmes. La pensée s'en mêle, bien sûr, c'est pour ça que nous écoutons les enseignements et que nous les répétons encore et encore pour qu'ils s'approfondissent. Il y a plusieurs manières de définir ces kilesas ou ces obstacles. Là, je prends les obstacles vipassana. Il y a le désir et l'aversion, l'agitation et la somnolence et le doute. Et ce sont d'abord des obstacles à la concentration. C'est d'abord ce qui empêche la concentration de vraiment rester focalisée sur un point ou un objet. Mais c'est aussi ce qui émerge à chaque fois qu'il y a une émergence karmique dans nos vies, qu'il y a quelque chose, Mara, qui se manifeste et qui dit « regarde-moi ». Le désir, c'est une eau colorée, l'image, c'est une eau colorée. L'herbe paraît plus verte dans le champ d'à côté. Je pourrais bien être là, il y a le corps, il y a les ressentis, il y a les pensées, il y a la conscience, mais cet état d'être n'est pas du tout assez. Il faut autre chose. Et alors nous focalisons sur l'objet du désir. En retraite, ça peut être chez moi, aller en vacances, aller dormir, boire un thé. Euh, le désir d'une bonne concentration, le désir, même le désir de la libération. Celui-là, on lâche en dernier, gardez-le, celui-là. Pour le moment. Et ça crée une énergie de réactivité parce que nous donnons trop d'importance à l'expérience désirée. Et nous oublions de voir l'expérience réelle. Et nous ne voyons plus ce qui cause la souffrance. Nous ne voyons plus que c'est le manque de présence, que dukkha existe. Nous n'avons plus cette qualité d'équanimité où je suis sans préférence. Nous perdons l'instant. Et nous perdons aussi la connexion avec les autres. Nous oublions que les autres souffrent aussi, que les autres peuvent avoir cette même énergie du désir. Quelque chose se ferme sur moi, et alors ça crée une mauvaise interprétation. La pensée devient obstruée. Et la cause de cette obstruation n'est pas tellement le désir lui-même, mais c'est que je ne vois pas que c'est juste du désir. Je ne suis pas suffisamment intime avec moi-même. Et je crois vraiment que si je peux assouvir ce désir, alors ce sera OK. Et d'essayer de contempler cette croyance. Si j'ai une bonne expérience spirituelle, alors j'y suis. C'est le chemin vers la libération. D'essayer de voir comment le bonheur ne peut pas être ailleurs que maintenant. Je n'y serai jamais. Et si je peux voir, c'est le désir. Ah, c'est le désir. J'essaye de le sentir. Alors, d'une certaine manière, ce voile conceptuel tombe. Le voile énergétique ne tombe pas forcément. Ça ne devient pas forcément agréable. Mais on pourrait dire, du moment qu'il y a la présence et qu'il y a cette ouverture d'exploration, que je ne suis pas prise par l'objet du désir, et que je sais que c'est le chemin, c'est bon, je fais ma part. En retraite, nous sommes souvent avec un désir insatisfait. Vous avez remarqué? Assez souvent, il y a un désir insatisfait. Et ça vient beaucoup du besoin d'existence, comme nous sommes limités dans notre besoin de faire, de découvrir, de jouir, de loisir. Alors, ce besoin d'existence se manifeste. Et ça peut être puissant. Je me souviens, au début d'une retraite de 3 mois, je regardais par la fenêtre, j'avais ce besoin d'exister, j'avais envie de faire, mais n'importe quoi, mais faire. Puis je voyais la cuisinière qui était en train de faire à manger, mais mon Dieu, ce que je la jalousais. Et quand nous voyons, c'est juste le besoin d'existence, alors... l'obstruation mentale tombe. Et il y a cette impression que, ok, je tiens mon fil rouge. C'est pas que ce soit agréable, mais je tiens mon fil rouge, même si ça a encore envie de crier, de bouger, ça fait rien, j'y suis, quoi. C'est ça l'expérience. c'est ce besoin d'existence. Et alors je l'apprivoise et peu à peu, ça lâche. L'agitation, c'est le deuxième de ces enfants, c'est un de ces obstacles. L'image, c'est une eau agitée par le vent, ça fait des vaguelettes. L'agitation vient aussi de cette immobilité, du silence, il n'y a rien à regarder, aucun désir à assouvir. Et alors le mental se met en marche. Et ça crée une sorte de confusion. J'ai l'impression que je ne peux pas être là. Ce n'est pas possible d'être là avec l'agitation. Mais essayez. En fait, je ne peux pas être là avec l'agitation parce que j'y crois. Je crois que c'est quelque chose. Je ne vois pas que c'est sans substance. Donc, ce que vous pouvez essayer quand l'agitation est là, c'est de vraiment mettre ensemble la conscience et l'agitation. C'est comment l'agitation? Je suis là avec. C'est important de conscientiser quand il n'y a pas d'agitation, le calme qui vient parfois. Et puis d'être vraiment ouvert. Quand l'agitation vient, elle vient. Ah ouais, c'est de nouveau toi. Coucou. Le corps devient impatient. Il est mal à sa place. Il y a une espèce de stress. C'est pénible. La sagesse peut dire ne bouge pas, mais c'est difficile qu'elle dise ne pense pas. Et il y a bien sûr toujours, avec tous ces qui les a, le sentiment de mal-être et de malaise, et je ne suis pas dans la cible, j'y suis pas, quoi. Ok, j'y suis pas, mais je le sais. Donc nous pouvons reconnaître. Ne pas croire que nous faisons un mauvais travail et chercher comment se détendre avec. Je ne suis pas l'agitation. Et sous l'impact des défis de la vie, ce stress ou cette agitation émerge de nouveau, même quand nous avons apprivoisé et que la concentration peut être établie. Et l'agitation émerge de nouveau quand une émotion perturbatrice se manifeste. Il y a cette opacité qui crée cette sorte de gros morceau où tout d'un coup, il y a tout là-dedans, il y a du doute, il y a de l'aversion, il y a de la confusion. Et c'est vraiment dans ces moments-là que le vrai travail se fait. C'est dans ces moments-là. Là, je viens de faire une retraite avec Ajahn Abhinanda. Et puis, à un moment donné, je vais vous raconter toute l'histoire, mais voilà, j'ai eu un gros besoin d'existence. C'était super, parce qu'en même temps, je savais que j'étais là, que j'avais fait cette retraite pour ça. C'est ça que j'avais à purifier. C'était pas très glorieux, mais c'était comme ça. L'agitation est un des qui les a qui demeure longtemps dans le chemin, même lorsque nous avons passé beaucoup de seuils, sous l'impact des émergences karmiques, l'agitation se manifeste. C'est l'expérience de l'appropriation, de l'identification. Et c'est absolument frappant combien ça paraît vrai quand on est à l'intérieur. Alors, c'est aussi ça que permet la méditation, c'est que ça paraisse beaucoup moins vrai. C'est là, c'est bien là, mais c'est pas... Il n'y a pas de substance. Et on peut sentir ce moi qui devient brûlant, tout d'un coup le moi devient brûlant, ou bien alors rigide, froid, rigide. La confiance dans le dharma et dans la présence fait que le cœur reste ouvert quand ces moments difficiles émergent. C'est Shantideva qui dit, c'est pas vraiment Shantideva, c'est un commentaire sur Shantideva. Pour les bodhisattvas, quand nous sommes en proie à des bouleversements émotionnels, ils ne nous perçoivent pas comme des personnes stupides et lamentables, ils considèrent notre confusion comme de simples intempéries météorologiques, momentanées et fugaces. Et c'est ce regard que nous pouvons porter sur nous-mêmes, plutôt que de nous juger, de faire toute une histoire. Ok, voilà, l'orage passe. Un autre de ces obstacles, c'est l'aversion. L'image, c'est une eau tempétueuse. Souvent dans l'exercice de la méditation, parce que c'est long, que le corps peut avoir mal, qu'il s'ennuie vaguement, l'aversion, la douleur arrive, la douleur corporelle. Et avec la douleur corporelle, au bout d'un moment, l'aversion. Au début, ça va, comme j'ai appris à reconnaître l'aversion, je la vois. Ah, c'est l'aversion. Et puis ça dure. Alors, ça devient très juteux. Et le doute s'y met. Oh là là, je fais faux, il y a quelque chose qui ne joue pas avec moi. Si seulement il y avait du qigong, c'est parce qu'il n'y a pas de qigong, c'est parce que je ne fais pas de yoga. Et l'identification est en général inconsciente. Et avec l'aversion, il s'agit ni d'exprimer ni de réprimer, mais de ne pas oublier d'explorer, de ne pas oublier d'avoir de l'intérêt. Et si nous ne pouvons plus avoir l'intérêt pour l'aversion elle-même, nous pouvons avoir de l'intérêt pour là où ça va bien, dans le corps. Dans nos vies, lorsqu'il y a l'aversion, souvent, soit nous nous soulageons en étant en colère, en exprimant notre colère, ou bien alors nous nous faisons du mal en réprimant le ressenti. Et puis ça s'accompagne de jugement, de ce sentiment de faute. L'esprit est dur parce que nous n'osons pas détester pleinement. J'ose pas détester pleinement parce que je veux être une bonne fille. Je ne peux jamais rencontrer une énergie sans lui faire de l'espace. Et c'est tout à fait différent d'explorer à la lumière de la conscience en laissant être ou d'y croire. Et comme quand il y a l'aversion, c'est un mélange de peur, d'indignation, il y a un choc, il y a de la tristesse, peut-être de la confusion. Alors, nous créons ces deux flèches. Il y a la flèche de l'expérience qui effectivement est désagréable et fait mal. Et il y a la deuxième flèche psychique que je rajoute par mes jugements, ma réactivité, mon doute. Et tout ça vient uniquement parce que je n'ose pas ressentir l'énergie d'aversion. Et quand il y a l'aversion contre l'agitation dans l'expérience méditative, c'est très très difficile. Vous pouvez toujours prendre refuge. Oh, moi vraiment là, je ne sais plus quoi faire, c'est horrible. Ok, je prends refuge. Puisque je ne sais plus. Lui sait, enfin elle ou ça. La somnolence. Comme il y a des spécialistes de l'agitation, il y a des spécialistes de la somnolence. C'est une eau boueuse. L'image, c'est une eau boueuse. C'est une sorte de réactivité, mais au lieu qu'elle soit comme l'agitation, il y a trop d'intérêt, je dois aller là et là, il n'y a plus d'intérêt du tout. Vous pouvez toujours voir comment ça commence. Après, dedans, ben voilà, on oublie, ça, il y a une perte de conscience. Mais de bien voir comment ça finit. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Qu'est-ce qu'il y a avant? Qu'est-ce qu'il y a après? C'est assez agréable parce que le temps passe vite. Le Bouddha a parlé du nirvana du pauvre. Passer toute une heure à dormir et puis se réveiller à la fin, au moins j'ai pas souffert. Mais l'ennui, c'est que je ne suis pas là. Dans nos vies également, il y a cette espèce de manque de conscience ou de manque de... d'intérêt pour le vrai bonheur, où je m'assoupis dans mon confort. Je ne me souviens plus que c'est important d'être là. Je suis dans la routine, dans mes habitudes. C'est pour ça que nous aimons bien aller en vacances. Parce qu'en vacances, forcément, cette espèce de somnolence du quotidien, elle passe, ça fait nouveau ah. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ah par rapport à l'instant? Comme ça, on est toujours en vacances. Si nous avons beaucoup de somnolence dans une retraite, il faut mettre plus d'accent sur la pratique au quotidien. De toute manière, c'est important d'avoir cette constance de présence quand je fais tout ce que je fais, quand je fais ce geste, quand je me lève, quand je mange, quand je... Mais si je suis un peu mécontente parce que je dors beaucoup dans cette retraite, alors je le fais vraiment très consciemment, très consciencieusement. Cette référence à l'expérience dans l'action. Et puis le doute. Le doute, le mental semble assez clair. Donc l'image, c'est une eau qui n'est pas opaque, qui est claire, mais qui est boueuse au fond. Parce que dans le doute, il y a un bon doute, c'est le doute qui questionne et qui vérifie. Un doute discernement. Quelle est l'expérience? Comment je peux faire pour mieux être là? Mais ce doute qui compare, qui est dans des notions hiérarchiques, c'est lui ou moi, c'est mieux, moins bien, c'est faux, juste, j'ai raison, j'ai tort. Il y a derrière une espèce de panique existentielle. J'ai besoin d'avoir raison parce qu'autrement je meurs. C'est une puissante emprise énergétique et mentale. D'une certaine manière, il y a un intense besoin de perfection pour moi. Il faut que moi, je sois bien. Un total oubli des autres. On cherche une espèce de sécurité intérieure à l'extérieur, conditionnée, hein, avec des bonnes conditions. Si j'ai des bonnes conditions intérieurement, ce sera OK. Et le doute peut venir par rapport à moi-même, mais aussi par rapport à l'autre, ou par rapport à la situation, au monde, ou au chemin. Le doute, il est beau joueur quand vous le reconnaissez et que vous lui faites l'espace. En général, il lâche, contrairement à la somnolence ou à l'agitation. Je crois que l'agitation, si vraiment vous lui faites l'espace, ça lâche. Donc, toutes ces énergies ont un point commun, c'est cette perception que quelque chose n'est pas OK. Et d'une certaine manière, c'est juste, il y a quelque chose qui n'est pas OK. Ce n'est pas la nature de la conscience. Il y a ces voiles qui sont là. Parce que lorsque le doute passe, la confiance est là, la vraie confiance. Pas cette pseudo-assurance ou sécurité. Quand le désir lâche, il y a le lâcher-prise et l'équanimité, qui est tellement plus détendu et libérateur. Quand la somnolence lâche, quelque chose s'éveille, hein? Il y a l'éveil. Et quand l'agitation lâche, il y a le calme. Et l'aversion, quand elle lâche, il y a la compassion. Donc, pour que la confiance dans la pleine conscience augmente, nous cherchons à laisser être ces énergies, à voir qu'elles ont eu un début, que maintenant elles sont là, qu'elles auront une fin. Et nous les prenons, nous les goûtons comme le son de la cloche. Ça émerge, ah ouais, c'est là. Et de toute manière, vous êtes tranquille parce que ça va passer quand la cloche sonne. Donc vous pouvez vraiment laisser être. Dans nos vies, c'est plus délicat. Il n'y a pas tout d'un coup une cloche qui sonne. Le Bouddha qui dit tout comme le couteau a le pouvoir de couper, la pleine conscience a le pouvoir de transformer l'esprit. Et avec ces obstacles, peu à peu, comme nous les avons rencontrés, c'est bon, nous les avons vus. Il n'y a plus ni de peur, ni d'intérêt, ni rien, qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là, au fond c'est égal. Et alors ils ne viennent plus dans l'assise, et dans nos vies, quand ils viennent, ils sont saisis de la bonne manière. Ils sont reconnus, acceptés. Valorisé. Je peux dire chic parce que je sais que ils vont fortifier en moi la sagesse. Donc nous les apaisons parce que nous les voyons, que nous les explorons et que nous savons que c'est le chemin. Et nous les nourrissons, c'est nous qui les créons lorsque nous y croyons, que nous réagissons. Quand on, dans les paroles d'équanimité, quand on dit, je ne sais plus comment on dit ça, mais je suis responsable de la création de mon monde, c'est ça. Je suis responsable. Je crée l'obstacle en y croyant et en réagissant. Le désir, c'est un manque de concentration. J'oublie que les conditions sont juste des conditions. Je me souviens, il y avait une fois une des enseignantes à IMS qui disait, qui racontait une histoire. Elle était avec son maître en Inde, et puis l'Inde, c'est l'Inde. Alors ils voulaient prendre le train, puis les trains passaient, puis ils étaient bondés, puis ils ne pouvaient pas partir, puis elle était malheureuse parce qu'ils n'avaient rien à manger. Et puis elle lui a dit, vraiment, je suis désolée, ça fait des heures. Et puis il a répondu, oui, il y a la faim, mais il n'y a personne qui a faim. Quand le désir est mis à sa place. L'aversion, c'est un manque d'intérêt. Cet état que je ne veux pas voir. Je ne peux plus coexister paisiblement avec l'instant. Je ne sais pas trop où je suis ni où je veux aller, mais en tout cas, je ne veux pas être là, quoi. Pas avec ça. L'agitation, c'est un manque de plaisir. C'est très pénible. J'aimerais que ça s'arrête, cette façon d'aller sans cesse ici et là. La somnolence, c'est un manque d'investigation, c'est une paresse. Et ça demande de la fermeté et de la patience. Et surtout ne pas croire que je fais faux. Du moment que je viens mettre mon derrière sur le coussin, je dis tout ce que j'ai à dire. Après, je ne peux pas contrôler. J'avais une petite parole dans un livre, je ne sais plus bien comment c'était, qui disait que même si tu n'as rien fait de toute ton heure que de partir, de revenir, de partir, de revenir, ton heure aura été très bien employée. Nous pouvons stimuler l'esprit lorsqu'il y a la somnolence en questionnant « mais qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Et puis le doute, c'est ce manque d'équanimité, c'est blanc ou noir. Je ne peux pas être dans les gris. C'est une quête de certitude, je veux savoir. Mais nous ne pouvons rien savoir. La vie est imprévisible. Pourquoi ça m'arrive à moi? Ben parce que tu es né. Lorsque nous sommes nés, nous avons une vie avec des événements qui sont imprévisibles. Et si nous pouvons avoir suffisamment de clarté dans l'esprit pour accueillir ça avec sérénité, suffisamment de confiance dans le cœur pour rester dans la bienveillance, et un corps qui sait prendre sa place sans ambition, alors ces impondérables de la vie sont partagés avec les autres. Au lieu que je fasse ce mouvement de repli sur moi et mes besoins, ouais, bon sang, si ça arrive à l'autre, je suis bien triste, hein, mais enfin je vais pas en faire quand même une maladie. Et alors de voir comment nous pouvons partager ces obstacles, sentir combien dans cette salle, tout le monde a sa part de voile sur la conscience. Quelque chose se met en place. Parce que c'est qui les a arrête de nous limiter au sens du moi. Et c'est un pouvoir, c'est un grand pouvoir que de se souvenir de notre souffrance partagée. Je ne suis pas seule. Quand l'esprit a peu de stabilité, aussitôt qu'il est mis en contact avec un objet mental, il devient agité et confus. Pourquoi est-il agité? Il est sous l'influence de la soif et du contrôle. Vous ne voulez pas penser, vous ne voulez pas d'objet mental. Ce non-vouloir est une sorte de soif. Vouloir que ça n'existe pas. Plus vous désirez ne pas faire l'expérience de l'agitation et de la confusion, plus vous l'encouragez et lui ouvrez la porte. Pourquoi y a-t-il cet état d'esprit? Pourquoi est-ce que ça vient? Parce que vous voulez être tranquille. Et alors, au lieu de vivre en paix, nous vivons difficilement. Je vous lis encore une parole de ce commentaire de Shantideva. Notre névrose est transitoire et dénuée de toute substance. Lorsque nous nous sentons seuls, déprimés, que le malheur nous frappe, regardons autour de nous, relions-nous aux souffrances des autres. Nous avons tous la même réactivité, la même stupidité, la même résistance. En souhaitant que tous soient libérés, la vie devient plus vaste que le seul moi. Que ce soit triste ou joyeux, cultivons un sentiment d'humanité partagée. Les obstacles sont des obstacles à la concentration, mais ce sont aussi, ils émergent aussi dans les émotions perturbatrices et ils émergent aussi dans les seuils spirituels. Quelquefois, un obstacle émerge juste pour me vérifier lorsque je suis sur le point d'ouvrir la conscience un peu plus loin. Et au moment où ces obstacles arrivent et que le souvenir d'être là l'accompagne, alors on pourrait dire que nous sommes comme des Bouddhas. Je
je vais finir par une parole d'un monsieur qui s'appelle Joël Lachner. La santé ne signifie pas le bonheur, la complétude ou le succès. La santé, c'est être un avec l'expérience offerte. Même la mort est un événement sain si nous assumons pleinement le fait de mourir. C'est une question de conscience, de vivre dans le présent. On est en santé lorsque nous sommes un avec notre existence présente, quelle qu'elle soit. Nous pouvons prendre un moment en silence.